Du quartier à la ville durable vers un nouveau modèle urbain, cet ouvrage opérationnel et concret proposé par le comité 21 vous propose des apports théoriques, des focus sur les quartiers durables, des interviews d'experts ou encore des illustrations concrètes de bonnes pratiques innovantes. En effet, après l'expérimentation des éco-quartiers, il est urgent de changer d'échelle pour passer à la ville durable.
Du quartier à la ville durable, le comité 21 dresse aujourd'hui le panorama d'une centaine d'expériences concrètes, innovantes, transférables, menées dans les collectivités françaises et étrangères. Du quartier à la ville durable, vers un nouveau modèle urbain, point d'interrogation, c'est le titre de ce premier ouvrage de toute une collection qui s'adresse aux équipes territoriales, aux professionnels de l'urbanisme et au grand public, bien sûr, puisque tout le monde participe de la ville. Gilles Béraud, président du comité 21.
La ville aujourd'hui a découvert beaucoup d'initiatives, a mis en place beaucoup de solutions, mais souvent elles sont à l'intérieur de quartiers durables, à l'intérieur de bonnes initiatives, etc. La question aujourd'hui, c'est toute la question de l'ouvrage que publie le comité 21, c'est comment passer d'un quartier durable exemplaire à une généralisation pour la ville.
Sans exemples parfois très originaux d'éco-quartiers, tels des expérimentations des possibles, le comité 21 a pour autant résisté à la française tentation de la modélisation, de la mise dans des cases. Antoine Charlot, auteur de cet ouvrage, est responsable du pôle territoire durable du comité 21.
Surtout pas de modèle, en effet. Il faut éviter tout label, tout modèle, car la ville doit se construire en fonction de son contexte historique, politique, de sa démographie également. Il est évident qu'une ville durable à Lille ou dans le Nord-Pas-de-Calais ne sera pas identique à une ville durable en Provence-Alpes-Côte d'Azur, et encore moins en Égypte ou en Chine. Donc il faut éviter les labels, éviter les modèles, mais par contre construire sa ville durable en fonction de son contexte et de ses spécificités.
Du quartier à la ville durable, c'est en quelque sorte de l'éco-prospective. Il s'agit en tous les cas de franchir cette étape, passer de l'éco-quartier à la ville tout entière. Antoine Charlot.
Il faut utiliser ces espaces d'expérimentation pour identifier les clés de réussite de l'urbanisme durable et de voir comment ces clés de réussite, on peut les étendre à l'échelle d'une ville. Donc cela passe par l'éclairage public, par exemple. La ville d'Oslo, aujourd'hui, modélise un certain nombre de techniques pour baisser l'intensité de l'éclairage public et de ce fait, les consommations et baisser les émissions de gaz à effet de serre. On a des exemples sur, aujourd'hui, des jardins partagés qui se développent de plus en plus, qui sont des lieux, là aussi, d'échange avec la population autour de la biodiversité. On a ça beaucoup en France, mais aussi à l'étranger, où on peut encore citer l'exemple de Nantes sur aujourd'hui une multitude de transports collectifs, tramway, busway, navette fluviale.
À Nantes, c'est une très jolie villa qui a été entièrement construite à partir de déchets urbains. À Francfort, c'est la fière Commerzbank Tower qui est équipée d'une station météo afin de régler le chauffage au plus fin des prévisions. De la même manière, dès lors qu'une fenêtre est ouverte, eh bien, le radiateur à côté s'éteint automatiquement et des capteurs de présence repèrent les pièces vides où la lumière pourrait incidemment brûler. Écologie et ville peuvent faire très bon ménage. Exemple en France, en région parisienne, à Argenteuil, Anne Gelet, maire adjointe en charge de l'environnement, du développement durable et des transports.
Écoutez, le développement durable, c'est intéressant pour tout le monde hein, et c'est intéressant pour les habitants d'une grande ville populaire comme Argenteuil. C'est intéressant parce que ça permet d'organiser la ville différemment, de réfléchir à des nouveaux usages et à valoriser des pratiques qui, pour l'instant, avaient été considérées comme annexes. Dans une ville populaire, les gens vont beaucoup au marché. Et c'est une façon durable de consommer. Dans une ville populaire, les gens ont des logements qui ne sont pas très grands. Et c'est une façon aussi moderne et dans le sens du développement durable de se loger, parce que bien souvent, on constate que l'éco-conception a servi à développer en fait des logements beaucoup plus grands, beaucoup plus dispendieux sur le point de vue de l'énergie, et qui permettent de faire des économies d'échelle qui sont tout à fait regrettables quand on s'intéresse au développement durable. Donc le mode de vie des gens plus populaires est déjà par nature, de toute façon, beaucoup plus dans le sens du développement durable. Et quand je commence mes interventions comme ça auprès des gens, en général, ça permet de baisser la garde et ça les amuse beaucoup. Les gens des classes populaires prennent moins l'avion. Les gens des classes populaires n'utilisent moins de 4x4. Ils ont effectivement moins de résidences secondaires, en général. Et en plus, ils sont aussi très attachés au lieu où ils vivent. Et donc, des concepts qu'on considère comme encore nouveaux, encore qu'on peut en discuter, comme des questions de jardins partagés, d'habitat coopératif, de recyclage, sont des concepts qui parlent très facilement aux gens des classes populaires.
La ville, le lieu de vie de l'être humain, c'est historiquement par là que passent les décisions. Bettina Laville, cofondatrice du comité 21 et présidente du comité de prospective.
Ces villes, comme ce qu'on appelait la Grande Anse, hein, c'est-à-dire qui faisait le rapport entre toutes les villes hanséatiques, s'organisent d'ailleurs en particulier sur les problèmes climatiques entre elles et changent des pratiques. J'ai l'impression que maintenant que la moitié de la population mondiale vit dans les villes, on va arriver à de grands réseaux de villes qui peut-être risquent de fonctionner de manière plus efficace que les États entre eux, dont on voit bien aujourd'hui le grand mal à rester de manière là aussi efficace dans la communauté onusienne.
Du quartier à la ville durable, cet ouvrage en forme de guide pratique a été réalisé en collaboration avec l'Association des maires des grandes villes, avec le soutien de la Caisse des dépôts, du groupe GDF Suez et du groupe Vinci, également avec le soutien de l'ADEME et du ministère de l'écologie, Michel Papalardo, commissaire général au développement durable.
Le comité 21, c'est quelque chose que l'État, pas le gouvernement, mais l'État a toujours accompagné depuis l'origine. Et j'étais à l'origine, donc c'est pour ça que j'ai toujours eu un faible comité 21. Et puis parce que ça fédère et ça permet des dialogues entre toutes les parties prenantes sur les sujets qui sont aujourd'hui les sujets qui nous préoccupent.
Mais au fait, dans quelle ville hormis Paris vivrait Bettina Laville, l'âme du comité 21, Bettina Laville?
J'ai quand même un amour de New York total. Et je trouve que New York a quand même été la première ville du monde à figurer le 21e siècle. C'est vrai que quand je suis allée à Shanghai, je me suis dit, voilà la ville que je ne verrai pas. Autrement dit, je me suis dit que dans les 2-3 générations futures, toutes les villes du sud ou toutes les mégapoles ressembleront à Shanghai et que celle-ci est un peu figure de proue. C'est pour ça qu'elle est passionnante.
Du quartier à la ville durable est en vente directement auprès du comité 21. Le comité 21 qui prépare pour le mois d'avril le tome 2 de cette collection, le guide pratique du marketing durable. C'est très sérieux, tout ce qu'il faut savoir pour ne pas se tromper.